Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Camille parle sexe. Cet épisode explore un sujet fascinant qui amène de plus en plus de personnes à se questionner dessus. La non-exclusivité, qu'elle soit sexuelle et ou sentimentale, et les questions profondes qu'elle soulève sur le plan psycho-émotionnel et relationnel. Avant de devenir sexologue, je m'étais déjà penchée sur ce sujet quand au cours d'une formation, on m'a annoncé que je pouvais designer la relation que je souhaitais. C'est-à-dire que le format couple « classique » entre guillemets que je connaissais n'était pas forcément quelque chose qui était consciemment choisi, mais plutôt une trajectoire toute faite, celle qu'on attendait de moi. Ça m'a permis de me questionner sur ce que je voulais ou non, ce qui était important pour le futur de mes relations. Quels étaient mes choix conscients? Et peu importe finalement ce que vous choisissez, je dis toujours que tant que c'est fait en conscience, c'est très bien. La non-exclusivité peut prendre différentes formes, allant des relations polyamoureuses aux aventures occasionnelles comme le libertinage, en passant par d'autres configurations relationnelles non traditionnelles. Ça peut être une source de liberté et d'épanouissement pour certaines personnes, mais ça soulève aussi également des défis en matière de communication, de gestion des émotions et de la préservation du bien-être mental. On va explorer les avantages, les défis de la non-exclusivité, les stratégies pour maintenir des relations saines dans ce contexte, de comment on vit avec ses émotions. Des expériences vécues, je poserai aussi deux questions qui me viennent à ce sujet-là de la non-exclusivité. Vous me direz si vous avez déjà pensé à ces questions-là. La première, en tant que femme dans notre société et en tant que femme de plus de 40 ans, est-ce qu'il y a une différence déjà en termes d'exclusivité et de non-exclusivité? Et surtout, en tant que femme de plus de 40 ans qui vit de la non-exclusivité, est-ce que c'est la même chose si on est cette femme-là ou si on a un homme de plus de 40 ans? Et un deuxième point que j'ai soulevé en toute fin et qui me fait penser aux échanges, à tout ce que je peux lire aussi sur le compte Instagram de Gwen et Cal, c'est est-ce que la non-exclusivité est finalement pas réservée seulement aux personnes privilégiées? Mon invitée du jour est Marion Johannin. Marion se décrit comme une femme cis de 36 ans, thérapeute psychocorporelle. Elle accompagne de manière holistique et inclusive les personnes désireuses de travailler les questions et problématiques qui traversent la vie affective et relationnelle. Sa spécialité? Accompagner sur les interrogations et difficultés liées à la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale. C'est un épisode passionnant. Alors, mettez bien vos écouteurs et bonne écoute. Marion, bienvenue dans Camille parle sexe.
Bonjour Camille, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec toi ce matin.
On va parler d'un sujet fort intéressant, la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale. Déjà, pour commencer un petit peu, pour débroussailler un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par non-exclusivité ?
Alors, ce qu'on entend, ou en tout cas la manière dont moi je la définis, la possibilité dans ces relations amoureuses d'entretenir soit plusieurs relations sentimentales où on est engagé affectivement en même temps. Dans ce cas-là, on va être dans des relations qu'on peut qualifier de polyamoureuses, par exemple. Et concernant la non-exclusivité sexuelle, c'est la possibilité, lorsqu'on est engagé dans un lien amoureux exclusif, sentimentalement, d'aller explorer d'autres expériences sexuelles avec d'autres partenaires. Mais ça s'arrête à des expériences sexuelles. Il n'y a pas d'engagement, a priori en tout cas, affectif, sentimental.
Super. Et ma question qui peut venir, même pour les couples qui nous écoutent ou des personnes qui ont envie de penser un peu plus à leur future relation, pourquoi certaines personnes et certains couples font le choix d'être dans des relations non exclusives ?
Alors, dans ta question, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu utilises le mot « choix ». Donc, en effet, certaines personnes ou certains couples font le choix de la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale pour tout un tas de raisons qui les appartiennent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui sous-tend ce choix-là. Ça peut être des besoins ou des désirs individuels, besoins d'exploration, de liberté, etc. Donc c'est un peu difficile de répondre très précisément parce que ça dépend de chacun chacune, et individuellement et dans sa relation. Mais il y a aussi des personnes qui considèrent que ce n'est pas un choix, qui considèrent que la polyamorie, c'est-à-dire cette possibilité d'aimer amoureusement, affectivement plusieurs personnes en même temps, c'est une orientation relationnelle au même titre, par exemple, qu'une orientation sexuelle, qu'on ne choisit pas, qui vient de... un peu du fond de soi, de l'intérieur, du fort intérieur, et qui est là parfois aussi depuis toujours, ou qu'on découvre en tout cas parfois un peu sur le tard, mais finalement qui était déjà là depuis longtemps. Donc je crois qu'il y a des personnes qui le choisissent, d'autres qui ne le choisissent pas, ou qui considèrent en tout cas qu'ils ne le choisissent pas, et puis parfois c'est un peu les deux. Je crois que tout est possible.
Tout est possible et c'est ça qui peut des fois être difficile à naviguer parce que quand c'est un choix et qu'on est célibataire, on peut du coup se dire je vais cadrer un peu mes relations vis-à-vis de ce choix. Quand c'est, et tu l'as bien dit, l'orientation sexuelle ça se choisit pas, l'orientation relationnelle pour certaines personnes disent c'est pas un choix, c'est juste moi qui je suis, j'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus, on va dire ça comme ça. Mais du coup de faire aussi, ça m'est tombé dessus mais du coup... Pareil de se dire « qu'est-ce que je fais de ça ?» Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles peuvent aimer plusieurs personnes, mais qui vont dans des relations exclusives.
Exactement, la question du choix, je pense qu'elle intervient dans tous les cas, même quand on considère que cette possibilité d'aimer, c'est une orientation, etc. Ça n'empêche qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que je choisis d'explorer la non-exclusivité dans la réalité de mes relations, ou est-ce que, à l'inverse, je choisis plutôt de me freiner, de rester dans une relation exclusive parce que c'est ce que je connais qui est plus confortable, parce que c'est la norme et que c'est difficile de sortir de la norme. Encore une fois, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on fait ce choix-là plutôt qu'un autre. En tout cas, je crois que ce qui est important et pour moi dans mon travail, et notamment dans le travail que je fais sur Instagram, c'est d'apporter de la légitimité. C'est-à-dire que les personnes puissent se sentir légitimes dans leurs ressentis, ce qu'elles vivent émotionnellement à l'intérieur vis-à-vis de cette possibilité, ce désir d'aimer au pluriel. C'est déjà de pouvoir l'envisager, de se dire que c'est OK, même si ça sort de la norme, que la plupart des gens ne ressentent pas ça ou ne fonctionnent pas de cette manière-là dans leur relation. Ça n'empêche que c'est légitime de ressentir tout ça. Parce que si on légitime, on va pouvoir ensuite faire un choix davantage juste et conscient vis-à-vis de ce qui nous convient ou de ce qui ne nous convient pas.
Donc l'importance de légitimer déjà pour peut-être aussi atténuer ce sentiment de culpabilité ou sentiment de « je ne suis pas normale »,« je sors de la norme » ou « je suis la seule personne à penser ça ». Alors que quand on légitime, du coup, ça montre aussi, bah non, vous n'êtes pas la seule. Et en plus, bah, y a plein de choses qui peuvent être possibles de faire. Est-ce que dans ton travail, tu accompagnes des fois aussi des personnes qui réalisent ça en étant dans un couple non exclusif et que tu accompagnes ce couple-là, justement, pas forcément à prendre une décision, mais à essayer de naviguer avec justement toutes les émotions, sensations, ce qui se passe en imaginant qu'il y a une personne qui réalise qu'elle veut plutôt se tourner vers la non-exclusivité et puis peut-être l'autre membre du couple, bah, pas forcément.
Oui, ça arrive très souvent que j'accompagne ce genre de situation où du coup un couple exclusif souhaite s'ouvrir ou essayer de s'ouvrir en tout cas. Et dans la dernière situation que tu cites, donc c'est plutôt une des deux personnes qui a envie d'ouvrir et l'autre est soit a moins envie ou en tout cas ça peut lui faire peur. Donc oui, j'accompagne souvent ce genre de situation et là tout l'enjeu ça va être encore une fois d'accompagner les personnes à trouver de la légitimité dans leur ressenti, quel qu'il soit, que ce soit comme je disais tout à l'heure de la peur ou de l'envie, ou l'envie au contraire d'explorer, d'aller comprendre d'où viennent toutes ces émotions là. Si certaines émotions sont des freins à l'ouverture, est-ce que c'est des résistances qu'il faut vraiment écouter et surtout ne pas faire péter entre guillemets parce que ça serait trop insécurisant pour la personne concernée et à ce moment-là parfois la non-exclusivité c'est ce qu'il faut préserver. Ou à l'inverse, on se rend compte c'est des peurs qui peuvent être apaisées en allant, par exemple, travailler la question de la sécurité intérieure, la confiance en soi, l'estime de soi, la sécurité aussi affective dans sa relation, comment on va pouvoir se sécuriser l'un, l'une ou, et l'autre par l'amour qu'on se porte, la qualité de nos échanges, la communication, des temps qu'on va pouvoir passer ensemble, etc. Donc, encore une fois, selon ce que les personnes amènent en matière, j'ai envie de dire intérieure, en ressenti, en émotion, à partir de là, on va pouvoir explorer les voies qui s'offrent à ce couple. Est-ce que c'est l'ouverture ou est-ce que c'est plutôt, pour l'instant, le choix de l'exclusivité qui semble le plus sécurisant, le plus pertinent pour tout le monde? Ou bien, parfois aussi, prendre des chemins différents parce que les désirs sont trop, trop éloignés, c'est plus possible de continuer ensemble.
Super intéressant parce que là, effectivement, on voit toutes les configurations et que des fois, ce n'est pas évident. Mais je voulais revenir sur... Tu as déjà un peu répondu à cette question. C'est justement une personne qui est attirée par ouvrir sa relation de couple, mais que la non-exclusivité fait peur. Comment la personne peut travailler là-dessus? Tu parlais du coup d'une sécurité intérieure, d'une confiance, d'une communication dans le couple. Comment on peut venir rassurer cette peur? Justement, j'ai l'envie d'ouvrir et en même temps, ça me fait peur, tu vois, c'est entre désir et peur, c'est souvent entremêlé.
Eh bien, c'est une question vraiment centrale, cette question de la peur quand même, quand on a envie en tout cas de s'ouvrir, c'est souvent présent. Et pour moi, il y a un peu trois manières, trois voies, on va dire, pour aller apaiser cette peur-là, si c'est ce qu'on souhaite. Première chose, comme je disais, c'est de l'écouter. Cette peur-là, de la légitimer. Et ensuite, cette peur, on peut aller l'apaiser en allant travailler individuellement la question de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'image de soi, etc. Et pour ça, on va aller voir du côté de l'histoire de cette personne, qu'est-ce qui a jalonné son histoire relationnelle, peut-être des événements marquants, traumatisants, qui auraient pu abîmer cette confiance en soi et puis en l'autre aussi. Quels vont être les mécanismes de défense qui ont été mis en place aussi au fil de cette histoire-là et qui peuvent parfois être des vraies barrières à soi et aux autres et qui peuvent tout à fait aussi s'apaiser. Donc voilà, il y a vraiment une voie d'exploration individuelle et psychologique qu'on peut faire en étant accompagné aussi, par exemple. Ensuite, pour moi, cette sécurité, on va aller la chercher dans la relation, parce qu'on aura beau aller chercher de la sécurité, de la confiance individuellement, si on est dans une relation qui nous met en grande difficulté sur le plan de la sécurité, il y a parfois des relations très toxiques, mais sans aller jusque-là, il y a aussi parfois des relations où on a du mal à s'accorder parce que nos mécanismes de défense se rencontrent pas bien, qu'on a des traumas aussi qui se rencontrent pas bien, et où du coup, on est souvent insécurisé par l'autre, donc comment on peut aller apaiser ça, comme je le disais un peu tout à l'heure, mais ça va être comprendre aussi ce qui est en jeu dans la relation, ce qu'on met en jeu individuellement. Parfois, on se rend compte que c'est nos petits soldats intérieurs qui se bataillent, qui nous protègent individuellement, et c'est une petite baston entre nos deux armées intérieures. Mais quand on s'en rend compte, finalement, on baisse assez vite les armes, et puis on peut aller vers quelque chose de plus tranquille. La sécurité, elle va être aussi la manière dont on se considère, dont on s'écoute, dont on communique ensemble. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va dire la deuxième voie, c'est celle-ci. C'est comment aller chercher la sécurité affective dans la relation. Et puis, une troisième voie qui serait une voie un peu plus intellectuelle, je dirais, ce qui est celle de la compréhension du monde dans lequel on vit et de tous les déterminismes, finalement, qui vont venir imprégner notre manière d'être amoureux-amoureuse, c'est-à-dire les croyances, la norme, les injonctions, la loi, la religion... Tout ce qui être un peu notre bagage culturel, etc. L'éducation, la manière dont on a, la société dans laquelle on a grandi, etc. Donc, tout ce bagage culturel, quand je dis culturel, c'est pour englober un peu tout ça. Comment il va peser aussi sur notre façon d'être amoureux-amoureuse. Et parfois, c'est intéressant quand même d'en prendre conscience et on se rend compte qu'on peut aussi faire sauter des barrières parfois en se disant clairement c'est une croyance qui m'a été inculquée par ma famille ou par ma culture ou par les médias, mais en fait ça me va pas, ça colle pas avec ce que je veux et je peux m'en débarrasser du coup. Et ça peut aussi aider à aller chercher de la sécurité parce que parfois on est insécurisé, parfois simplement entre guillemets par le fait que tout le monde fait différemment, donc en fait on se remet en question énormément, on se dit non, je suis pas normale, c'est pas ok de faire comme ça, tout le monde va dans l'autre sens, donc c'est moi qui ai un problème. Donc quand on arrive à faire sauter un peu ces barrières, ou en tout cas à minima en prendre conscience, ça peut être très aidant aussi pour aller chercher de la confiance.
Et tu parlais de l'estime de soi, mais c'est sûr que quand on a une faible estime de soi, ça rassure d'être comme les autres.
Tout à fait.
D'où ce travail intéressant, déjà de pouvoir booster cette estime de soi pour pouvoir se détacher, peu importe ensuite quel est le chemin choisi, mais pouvoir faire son propre chemin indépendamment de ce que les autres font ou pensent, parce que dès qu'on a une confiance en soi et une estime de soi, on peut faire ses propres choix plus facilement aussi.
Exactement. Ce que tu dis là, moi, ça m'amène aussi à parler du besoin d'appartenance. Qu'on partage tous et toutes à différents degrés, intensités. On se rend bien compte que c'est pas facile de se décaler de la norme aussi pour ça, parce qu'on a besoin d'appartenir, comme tu disais, parfois, si on a une faible estime de soi, ça va être dur de se décaler, parce qu'on a besoin de ressembler aux autres, de se sentir appartenir à un groupe.
De ne pas être jugé par les autres, de ne pas être exclu, vraiment d'être comme les autres et de faire partie de ce groupe de pairs aussi.
Exactement. Et je sais que moi, quand je me suis lancée du coup sur Instagram, il y avait cette volonté, je crois, de m'auto-légitimer déjà dans mon propre parcours d'aller aussi chercher une forme de d'aller chercher une communauté aussi, une communauté virtuelle, qui peut amener des rencontres ensuite dans la réalité. Mais je pense que j'avais cette volonté-là et pourquoi pas aussi d'apporter via mon compte. Une forme de communauté aussi vers lesquelles des personnes pourraient se tourner. Et je vois bien que c'est souvent ce qui m'est rapporté, c'est ce sentiment de solitude fort quand on se décale de la norme et qu'on se lance dans la non-exclusivité, le polyamour, etc. Et ça fait du bien, du coup, de pouvoir retrouver des personnes qui partagent ces ressentis, qui partagent ce choix aussi relationnel, parce que ce besoin d'appartenance, même quand on se décale de la norme, il a quand même besoin d'être nourri. Moi, c'est ce que j'observe beaucoup.
Génial. Et justement, en faisant cette transition aussi un peu sur ton parcours, parce que ça va intéresser aussi les personnes, ton compte Instagram qui s'appelle Polyamour, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Quel est ton parcours justement vis-à-vis des relations non exclusives?
Alors, moi, c'est tôt. J'ai 20 ans, j'étais en relation exclusive avec un garçon dans une relation hétéro. Une chouette relation qui se passait bien, mais je sentais du désir pour d'autres personnes. Je sentais l'envie aussi d'explorer ce désir-là. Et quelques années après le début de notre relation, donc vers 22-23 ans, j'ai eu envie de lui en parler, parce que ce désir-là, il était fort et que je mettais ça aussi en parallèle avec des réflexions féministes aussi sur la question de l'appropriation de mon corps dans la relation exclusive hétéro. Pourquoi je devrais partager mon corps et mon plaisir uniquement avec un seul partenaire. Voilà, j'avais plein de questionnements et de réflexions dans ma construction identitaire et j'en ai parlé à mon compagnon de l'époque et qui m'a dit, bah, écoute, moi, je ne ressens pas ce désir-là, mais philosophiquement, ça me parle. En tout cas, cette idée de sortir de l'exclusivité, de s'offrir davantage de liberté. On se sentait, je pense, suffisamment aussi en confiance pour essayer, parce que ça, la confiance, elle est nécessaire. Je crois que quand on est dans un couple exclusif et qu'on souhaite sortir de l'exclusivité, c'est important de se sentir sécurisé, comme on le disait tout à l'heure.
Et la donc, confiance et la communication aussi. Exactement. Parce que tu t'es sentie aussi légitime, rassurée pour aborder ce désir aussi dans cette relation.
Exactement. Et on n'a pas forcément besoin de ça. Hein. Je crois qu'il y a des personnes aussi qui disent bah, « si ce n'est pas OK pour l'autre, je m'en vais, je vais faire ma vie de mon côté ». Bon, moi, j'avais 23 ans. Je n'étais clairement pas encore, je pense, suffisamment... en confiance pour me dire bah, s'il me dit non, je le quitte. Donc c'est clair, pour moi, c'était très rassurant que ça lui parle et qu'il ait envie d'essayer avec moi. Je pense que j'étais plus rassurée d'avoir un partenaire dans cette aventure-là. Et puis, c'était aussi une très belle aventure pour nous deux. Je crois qu'avant d'être un désir individuel, il y avait aussi cette envie d'explorer ça à deux, de voir ce que ça faisait, en fait, d'être amoureuse sans exclusivité sexuelle et sentimentale.
Parce que là, du coup, dans ce cadre que vous aviez du coup discuté, c'était la non-exclusivité en ayant, en étant polyamour. Est-ce que c'était juste sexuel? C'était quoi exactement?
Alors, au début, c'était une ouverture à d'autres aventures sexuelles. Je pense qu'on avait quand même peur, tous les deux, de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'une d'autre. Donc, on avait mis un cadre qui se limitait à des aventures sexuelles. Et puis, petit à petit, ben, y a eu des personnes un peu coup de cœur, quoi, avec qui on a développé des sentiments, des émotions fortes et intenses, et toujours par le biais de nombreux échanges, de nombreuses discussions, ben, on a fait évoluer petit à petit ce cadre-là, en se rendant compte que ça, un arrêté au sexe, déjà, c'était pas forcément ce qu'on recherchait. On voyait bien qu'il y avait ce qu'on mettait dans la sexualité. Ce n'était pas que du sexe, il y avait de l'émotion, il y avait du sentiment. Et on avait envie d'explorer aussi cette voie-là, de pas laisser certaines relations s'en arrêter là. Donc, en discutant, en se rassurant aussi toujours sur la place qu'on avait l'un et l'une pour l'autre, l'amour qu'on se portait, on s'est senti la possibilité de s'ouvrir à d'autres relations amoureuses, cette fois-ci au fil du temps et des rencontres, quoi. Et donc, petit à petit, le cadre a vraiment bougé. On était plutôt dans une relation, on va dire, polyamoureuse hiérarchique au tout début, où on avait encore une fois peur, je pense, de perdre notre place et notre...
La relation primaire.
Voilà, ce qu'on avait construit aussi, toutes les deux. Donc... Et puis petit à petit, ça aussi, ça a bougé et on a eu envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus horizontal dans nos relations, les relations qu'on engageait en dehors de notre couple. Donc aujourd'hui, on est dans des relations polyamoureuses non hiérarchiques. Alors je vis avec ce compagnon-là, donc pour certaines personnes, ça peut donner l'impression d'être quand même dans quelque chose de hiérarchique. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça, dans la manière dont on le vit, en tout cas aujourd'hui.
Est-ce que tu peux, pour les personnes hiérarchiques, donc de dire, en fait, finalement, il y a une relation primaire, des relations secondaires, horizontales, c'est du coup, toutes les relations sont au même niveau. Enfin, est-ce que voilà, tu peux nous expliquer avec tes mots?
Oui, donc là, je vais décaler aussi un petit peu de ma propre histoire pour parler peut-être de ce qu'on observe dans toutes les personnes qui naviguent dans la non-exclusivité. C'est qu'il y a différentes manières de relationner en non-exclusivité. Donc, il y a des personnes qui vont faire le choix plutôt, comme on le disait, d'exploration sexuelle et s'en arrêter là. On va, dans ces cas-là, parler par exemple de couple libre. Ou de libertinage, des personnes qui vont aussi parfois partager de la sexualité avec d'autres partenaires ensemble. Et puis quand on navigue plutôt dans la non-exclusivité sentimentale, où il peut y avoir de la sexualité, mais ou parfois pas, ça dépend. on repère différents modèles relationnels, donc des modèles de relations amoureuses, polyamoureuses, pardon, hiérarchiques, où il y aurait une relation primaire qui serait dans un système un petit peu pyramidal au-dessus d'une relation, c'est-à-dire qu'on va privilégier par rapport aux autres. Donc ça peut être parfois la relation avec laquelle on a ouvert et où la personne avec laquelle on s'est lancé dans la non-exclusivité qui va rester cette relation primaire, privilégiée. Et puis il y a d'autres modèles qui vont être des modèles non hiérarchiques, et là il y a des personnes qui vont naviguer dans ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle. Donc là on se décale encore un petit peu de la relation polyamoureuse, où les personnes vont dire qu'elles considèrent en tout cas toutes les relations affectives de la même manière, ou en tout cas qu'elles les mettent sur un même plan, c'est-à-dire relation amicale, relation amoureuse, tout est considéré, on va dire, de la même manière, ou en tout cas la priorité ne va pas être sur la relation amoureuse par exemple, ou la relation familiale, mais la priorité elle va plutôt être en fonction de la situation, de la personne, du moment, etc. Voilà, j'ai donné quelques grandes lignes, et puis il y a aussi les relations polyamoureuses non hiérarchiques, où là on va pouvoir naviguer d'une relation à l'autre sans qu'il y en ait une qui soit privilégiée en particulier. Ce qui est mon cas, par exemple.
Voilà, ce qui est ton cas et ce qui est intéressant. Et dans ton témoignage, est-ce que tu soulignais que beaucoup de personnes qui veulent justement entrer dans la non-exclusivité, qui sont déjà dans, on va dire, dans une relation primaire, je vais dire ça comme ça, et qui veulent ouvrir le couple, ont cette peur que finalement, si on ouvre le couple, qu'est-ce qui se passe ? L'autre peut tomber amoureux, ça va être la fin de notre relation. Enfin, il y a vraiment, comme tu disais un petit peu au début, cette peur que finalement ça nous échappe, cette relation primaire, que l'autre tombe amoureux. Comment t'aides les couples ou les personnes à naviguer avec ça, cette peur-là ?
Il me semble que tout à l'heure, on a un petit peu abordé déjà cette question, notamment sur les voies d'accès à de la sécurité. Sécurité intérieure et sécurité dans le couple, ça va être un travail psycho-émotionnel intéressant pour apaiser cette peur-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, la question plus intellectuelle, mais moi j'invite les personnes souvent à aller écouter des témoignages, à aller pourquoi pas lire des ouvrages, écouter des podcasts, se rapprocher de la communauté polyamoureuse ou libertine ou non-exclusive en tout cas, pour s'inspirer, écouter d'autres parcours se rendre compte que dans la réalité, explorer d'autres relations, que ce soit dans un cadre d'aventure sexuelle ou sentimentale, ça ne vient pas forcément rentrer en concurrence avec ce qu'on ressent pour l'autre. C'est-à-dire que évidemment que la meilleure des expériences, c'est de le vivre, de s'en rendre compte qu'il n'y a pas de concurrence en soi. Il peut y en avoir une, si on sent que l'exclusivité, c'est vraiment ce qu'on a besoin, parce que de manière psychologique, émotionnelle et chimique, ce qui se passe dans notre corps, quand on est en relation amoureuse, on se focus sur une seule personne en même temps et on a beaucoup de mal à envisager d'autres choses.
Il y a une question qui me vient justement. Est-ce que du coup, les personnes qui seraient dans une relation exclusive sont des personnes qui ont des peurs à venir travailler, justement ?
Oui et non. Oui et non, puisque si la non-exclusivité ne leur convient pas aujourd'hui, qu'elles ne sont pas à l'aise dans ce modèle relationnel, mais qu'elles sentent que c'est des peurs qui viennent freiner une ouverture, oui, là, ça peut être très intéressant d'aller regarder ces peurs-là. Et puis, pour d'autres personnes, comme je disais d'ailleurs, déjà, on se rend compte que ces peurs, c'est des résistances qu'il faut écouter, vraiment prendre en considération, et que l'exclusivité, c'est beaucoup plus sécurisant pour ces personnes-là. Mais d'un point de vue global, en tout cas, je dirais que moi, en tant que militante aussi pour la visibilité des personnes qui naviguent dans la non-exclusivité, c'est quand même de se rendre compte que l'exclusivité, elle a été construite culturellement pour diverses raisons, mais pas toujours pour des bonnes raisons, notamment dans le cadre de notre société patriarcale, capitaliste, hétéronormée. Quand on regarde historiquement, l'exclusivité, elle a servi aussi ce que je viens de dire là, elle a servi le patriarcat, elle a servi le capitalisme. Donc, je crois que c'est aussi intéressant, en tout cas pour moi, d'un point de vue politique, de remettre en question l'exclusivité. Ça ne veut pas dire que quand on est exclusif ou qu'on souhaite rester dans l'exclusivité, ben, on fait mal ou qu'on n'est pas suffisamment décalé vis-à-vis de cette société-là. Mais je crois que c'est quand même important de regarder d'où ça vient. Quand je parlais des déterminismes sociaux tout à l'heure, bah, ça en fait partie, hein, clairement. Donc, donc oui, parfois, on a peur de la non-exclusivité pour des mauvaises raisons. Et ça peut être intéressant de se rendre compte que c'est à cause de ce bagage culturel. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Puis parfois, c'est pour des raisons beaucoup plus profondes et liées à des traumas individuels, etc. Et voilà.
Tout comme on peut avoir peur de l'exclusivité aussi pour les mêmes raisons et à venir creuser. Donc, c'est super intéressant tout ce que tu disais aussi sur comment venir travailler, apaiser ses peurs. Parce que si tout le monde pouvait faire ce travail-là, on apprendrait déjà énormément sur soi, sur les relations, et ça permettrait déjà d'avancer sereinement, peu importe finalement.
Ouais, exactement. Ce que tu dis là, ça m'amène à parler aussi d'éducation. Enfin, c'était ma manière d'en parler en disant de faire ce travail intellectuel, voilà, de questionnement du bagage culturel. Mais je crois qu'il y a une question d'éducation aussi. Et on voit bien à quel point on peut manquer aujourd'hui et depuis longtemps, hein, d'éducation à la relation, même s'il y a de nombreuses choses qui sont faites, notamment au niveau associatif. Mais par exemple, à l'école, c'est vrai que c'est pas... c'est pas forcément le cas. On nous apprend pas à s'écouter soi déjà, à écouter l'autre de manière qualitative, à prendre en considération ses besoins, les besoins des autres, comment trouver des compromis, comment gérer des conflits. Donc cette éducation à la vie relationnelle, pour moi, elle serait intéressante de la déployer vraiment massivement. Pour nous permettre ensuite, quand on est adolescent, jeune adulte et qu'on s'ouvre à notre vie relationnelle et amoureuse, bah, d'avoir des billes pour justement avoir un regard critique. Quand j'ai critique, c'est pas jugeant, mais avoir un regard critique pour analyser ce que j'ai à l'intérieur et faire des choix plus en conscience, qui soient moins des choix défensifs. Moi, ce que j'observe beaucoup dans ma pratique clinique, c'est que je vais dire « on » parce que j'en fais partie aussi, hein. On est pétri de mécanismes de défense bien costauds, et je pense qu'on aurait pu parfois faire l'économie de certains mécanismes de défense si on avait été baigné dans une autre culture et dans une autre éducation à la vie relationnelle.
Et oui, parce que du coup, quand on pense aussi... les cours à l'éducation sexuelle, c'est aussi surtout, on parle en fait comment relationner entre individus, et que quand on pense sexualité, on la pense quand même sous le prisme déjà très hétéronormé et très et dans l'exclusivité. Mais ça peut être intéressant finalement de dire que on peut réfléchir à tout ça et qu'on peut créer sa forme de relation. Encore faut-il connaître toutes ces possibilités là. Parce que souvent, bah, par défaut, on va vers là où on est attendu, vers ce qu'on connaît, puisque dans les représentations même, dans les médias, dans les films, c'est rare de voir d'autres formes de relations. Donc aussi de pouvoir créer de nouvelles représentations et une nouvelle éducation vis-à-vis de ça. Je voulais te poser aussi... Alors c'est une grande question qu'on peut découper en petits morceaux. Quels sont pour toi les avantages et les défis aussi rencontrés dans la non-exclusivité, qu'elle soit sexuelle et ou sentimentale, sur le plan psycho-émotionnel, et tu as déjà dit quelques indicateurs, ces avantages et ces défis qui soient aussi tant au niveau individuel que relationnel.
Ouais, merci pour cette question très intéressante et qui m'amène poursuivre un peu le fil là, de ce qu'on venait de dire autour de l'éducation, parce que je crois qu'un des avantages pour moi, en tout cas, déjà de se questionner sur son choix relationnel, c'est, comme on le disait, de remettre en question ce bagage culturel dans lequel on a été baigné, le bagage éducationnel, et du coup, bien, on se rend compte qu'on a baigné dans un univers très compétitif, où du coup on nous met en concurrence les uns les unes avec les autres dès le plus jeune âge, hein, dès l'école, avec le système de notes, de comparaison intellectuelle. Déjà, on est baigné là-dedans tout petit, toute petite. Et donc, sortir, en tout cas, de l'injonction, de la norme exclusive, c'est déjà accepter qu'on ne nourrisse plus de sentiments de concurrence avec les autres personnes qui pourraient être de potentiels partenaires pour mes amoureux, amoureuses. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un énorme avantage qu'on peut tout à fait trouver sans se lancer dans la non-exclusivité, hein, attention, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui naviguent dans la non-exclusivité qui réfléchissent à tout ça.
Ou qui vivent de la jalousie, de la compétition, etc.
Exactement, mais en tout cas, c'est un des avantages, je trouve, de remettre en question cette norme exclusive, c'est celui-ci, c'est de se décaler un petit peu de ce système compétitif et concurrentiel dans lequel on nous baigne dans notre vie relationnelle. Et à ce moment-là, bah, on va pouvoir ensuite plus en profondeur aller travailler des questions très intéressantes comme celle de la jalousie dont tu parlais, qui finalement, la jalousie est un sentiment, on voit, qui est pétri souvent de peur, de sentiments d'injustice aussi, et dans lequel on va pouvoir aller creuser l'histoire individuelle et aller parfois apaiser des traumas ou des mécanismes de défense très ancrés qui en fait nous mettaient en difficulté dans plein d'autres domaines de notre vie. Mais le choix de la non-exclusivité et la nécessité aussi, du coup, d'aller bosser ce truc-là pour le vivre un peu sereinement, bah, ça nous amène à aller faire un travail psychologique vraiment, je trouve, apaisant. Enfin, des fois, c'est pas apaisant parce que ça peut venir bousculer, mais quand même, l'idée, c'est que ça soit apaisant. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'être accompagné. Mais voilà, je crois un des gros avantages pour moi, c'est l'exploration individuelle que ça amène à faire sur soi, la déconstruction de ce système compétitif, comme je le disais. Et ensuite, il y a tout le travail aussi de communication, parce que pour vivre dans un schéma non exclusif relativement serein et tranquille, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie quand même de la communication et de la franchise, clairement. Donc, ça demande de mettre au travail tout ça. Pour moi, bah, je trouve que c'est incroyable ce que ça peut générer sur le plan relationnel comme exploration, pareil pour soi, mais dans la relation, dans la dynamique relationnelle, on voit bien que c'est incroyable, je crois, quand on arrive à se dire les choses tranquillement, sans se sentir en compétition, en concurrence ou sans se sentir un peu dans son armure défensive parce que les besoins de l'autre nous mettent en difficulté. Quand on sort un peu de cette baston dont je parlais tout à l'heure, là, des petites armées intérieures qui se font, qui bataillent, voilà, c'est le quotidien relationnel, il est vraiment différent. Donc voilà, dans les grandes lignes, je dirais que pour moi, les avantages, c'est ceci, quoi. L'exploration individuelle que ça permet, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me convient vraiment, en sortant de ce bagage culturel parfois pesant et qui nous met des carcans qui ne nous conviennent pas, et puis ce travail sur la communication et la franchise à soi et à l'autre. Mmh. Et tout ce que je viens de dire là, ça peut être des défis, du coup. C'est-à-dire que...
Et oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes d'être dans de la communication, de l'authenticité, de travailler sur soi, de se remettre en question.
Exactement. Donc, tous les avantages que j'ai dit là, pour moi, c'est des avantages, d'une part, parce que je suis passionnée par ce travail-là. Donc, même quand c'est bousculant, je trouve ça passionnant et intéressant, mais ça peut être un peu remuant et parfois, ça peut être un vrai défi. Mmh. C'est-à-dire qu'on souhaite se lancer dans la non-exclusivité, mais on se rend compte... que waouh, en fait j'ai des barrières énormes et c'est ok, mais du coup ça vient me chercher vraiment au fond, puis on se rend compte que dans la relation, en fait on voit pas du tout les choses de la même manière, on n'a pas le même regard sur le monde parce qu'on n'avait jamais parlé de ça. Donc ça peut être des vrais défis et d'exploration intérieure et d'exploration relationnelle, et ça peut faire peur et amener tout un tas d'émotions un peu inconfortables. Donc encore une fois, ça peut être nécessaire, ou en tout cas ça peut être chouette parfois de se faire accompagner parce que c'est plus facile, ou qu'on a une personne extérieure qui fait médiatrice et qui apporte son expertise pour aider à analyser ce qu'on a à l'intérieur et en faire quelque chose de plus juste ensuite en termes de choix, de décision dans sa vie amoureuse. Mais voilà, ça peut être des gros défis. Et un des gros défis aussi, en dehors de tout ça, c'est le défi de l'affirmation de soi dans la sphère sociale, c'est-à-dire comment je m'assume j'assume ces désirs-là et comment j'assume ces choix-là si dans la réalité je relationne de manière non exclusive. Ça, c'est un vrai défi et pour lesquels bah, on a beaucoup moins de maîtrise. C'est-à-dire qu'autant je sens que j'ai des peurs, bah, si j'en ai l'envie, je peux aller le bosser sur le plan psycho-émotionnel, etc. Autant si je me fais rejeter par ma famille quand je leur dis que j'ai plusieurs amoureux amoureuses, j'ai des choix qui s'offrent à moi, mais ça va être contraint par, par la réaction de mon entourage. Donc, si je suis rejetée, j'ai pas forcément le choix que de me décaler, de prendre de la distance, soit de rentrer peut-être dans le conflit pour m'affirmer, mais voilà, en tout cas, c'est la réaction de l'autre à un moment donné qui donne le tempo, quoi.
Il y a plein de choses super intéressantes, je veux revenir un peu là-dessus sur les prérequis, les contre-indications, sur la santé sexuelle aussi et sur une réflexion, parce qu'on parlait de la place de la femme dans les relations exclusives aussi, hein, d'où ça vient cette exclusivité-là, et je vais faire déjà cette réflexion-là, mais on peut se poser aussi la question de la femme dans notre société, dans des relations non exclusives. Des fois on pourrait se dire aussi, tiens, est-ce qu'il n'y a pas... J'essaie de formuler parce que c'est vraiment une réflexion aussi qui vient et des personnes qui peuvent dire ça aussi. C'est-à-dire que les relations non exclusives seraient au bénéfice des hommes, que pour les femmes, être dans des relations non exclusives, ça peut être intéressant dans la jeunesse, je vais dire ça comme ça, et qu'après, parce qu'on visibilise les femmes à partir de 40 ans, c'est plus séduisant, c'est plus sexy, on ne vient pas valoriser tout ça... elles disparaissent de la sphère sociale, des représentations, et que là, bah, ça serait plus difficile pour une femme de 40 ans, je ne vais pas dire plus âgée, mais de 40 ans et plus, à s'épanouir aussi dans des relations non exclusives, et que, en tout cas, les hommes pourraient en bénéficier tout du long. Je ne sais pas si toi, tu as des réflexions vis-à-vis de ça, une pensée là-dessus.
On voit bien aussi que dans des relations hétéros, notamment, dans un cadre exclusif, les hommes cis peuvent être plus en difficulté pour prendre en charge la vie émotionnelle et la dynamique relationnelle de leur, dans leur relation amoureuse. Cette charge, elle est souvent incombée à la femme cis, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a tout un tas aujourd'hui de travaux qui sont faits là-dessus, la charge mentale, etc.
La charge sexuelle,
mais on voit bien que tout ça, c'est en rapport aussi avec l'engagement affectif, la manière dont on prend... dont on prend en charge tout ça.
Prendre soin.
Et quand on sort de la non-exclusivité, c'est pas dans un claquement de doigts que tout ça, ça bouge et que tout d'un coup, on se retrouve avec des hommes cis qui font attention aux émotions de leur partenaire, qui prennent en considération leurs besoins, qui font attention à leurs limites, etc. Donc, on voit bien qu'il y a de nouveau un basculement de patterns problématiques qui se reproduisent dans la non-exclusivité. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, pour aller vers des schémas relationnels non exclusifs apaisés, tranquilles, ça demande un vrai travail sur soi et un vrai travail de communication. Et donc moi, je vois des hommes cis s'engager fort là-dedans parce que ils ont envie aussi de sortir de ces patterns négatifs qu'ils ont envie de faire vraiment différemment. Et la non exclusivité peut leur permettre aussi ça. C'est-à-dire qu'au-delà de sortir de la norme exclusive, on remet en question aussi tout ce bagage culturel dont je parlais tout à l'heure. On remet en question l'hégémonie, la place du couple parfois aussi dans notre vie. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin que juste se dire « j'ai envie d'avoir plusieurs partenaires amoureux ou sexuels ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour moi, ça peut être aussi un écrin, la non-exclusivité, pour faire bouger sur le plan politique, on va dire, la manière dont on s'engage effectivement dans une relation, dont on prend en charge ses besoins et les besoins de l'autre, etc. Je sais pas si j'ai répondu, il y aura encore plein de choses à dire, mais...
C'est super intéressant, mais je veux quand même aussi connaître ton avis sur, on va dire, la femme vieillissante dans la non-exclusivité. Alors déjà qu'on sait que dans la relation exclusive, c'est déjà pas évident, mais dans la non-exclusivité, est-ce qu'en termes même... de choix, de relations, ça s'amoindrit pour les femmes et ça s'augmente pour les hommes vieillissants. Est-ce que là, tu as des retours d'expérience de femmes de 40 ans et plus dans la non-exclusivité qui voient des différences ou qui voient que des choses changent? Ce que tu disais, tu vois, il y a souvent un parallèle entre, bah, effectivement, ce qu'on a dans les relations exclusives, on peut les retrouver dans les relations non exclusives. Et là, c'est un petit peu la même chose où dans la sexualité des femmes vieillissantes, elles ont moins de choix, moins d'opportunités des fois, alors dans cette croyance aussi, hein, peut-être, mais qu'on va trouver ça beaucoup plus attirant et sexy un homme vieillissant qu'une femme vieillissante, et donc une femme vieillissante dans les relations non exclusives. Est-ce qu'en termes de choix, en termes d'expérience, c'est aussi la même chose? Il y a des choses qui évoluent? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr, je vois tout ce que tu veux dire. J'ai assez peu, je vais dire, honnêtement, de retour vraiment d'expérience sur cette problématique précise. Si ce n'est que sur les applis, par exemple, de rencontres, ça, on m'en parle souvent de cette difficulté de rencontrer déjà, qui est différente pour une femme ou pour un homme. Et donc, dans la non-exclusivité, ben, on retrouve ces difficultés-là de manière encore plus exacerbée parce que ça reste une minorité de personnes aujourd'hui qui souhaitent naviguer dans la non-exclusivité. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence quand on est une femme de plus de 40 ans ou un homme de plus de 40 ans? J'aurais du mal à te répondre très précisément. J'ai pas ou peu de retours à ce niveau-là dans ma pratique et dans les témoignages qu'on peut me faire. Oui. Si ce n'est la chose par contre qui revient, c'est plutôt ce souhait vraiment pour les femmes peut-être un peu plus âgées aujourd'hui, qui ont déjà eu un parcours amoureux avec par exemple plusieurs séparations, plusieurs déceptions, etc. Il y a vraiment cette envie d'autre chose, quoi, d'avoir des partenaires beaucoup plus attentifs. Enfin, on sent qu'il y a une vraie... Ça bouge quand même beaucoup la perception du couple, de la relation et de comment aller vers un épanouissement et une forme de, d'égalité aussi dans la charge émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment ce souhait du côté des femmes et qui peuvent, je pense, en effet, parfois les limiter dans leurs rencontres. Est-ce que c'est parce que les hommes s'y mettent plus tardivement ou ne s'y mettent pas? Voilà, moi j'aurais du mal sociologiquement, je ne suis pas assez achalandée, je pense, pour répondre précisément à cette question, même si dans les ouvrages que je lis, évidemment, on voit bien que oui, ça reste le cas. Moi, en tout cas, dans ma pratique aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé, j'avais quasiment que des femmes et je déplorais ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré.
Donc des hommes qui viennent aussi en consultation, exactement, faire ce travail sur eux.
Exactement.
Super. Par rapport à la santé sexuelle maintenant, parce que j'ai lu récemment un article scientifique qui disait, parce que souvent il y a cette croyance aussi, si on commence à ouvrir son couple, à avoir des relations sexuelles, à tout va, il y a la peur, la crainte qu'on ait des IST, qu'on ait des maladies, etc. Et donc, une étude, et peut-être même plusieurs, disent qu'en fait, que les personnes qui sont en couple, en relation libre ou non exclusive, ont des pratiques sexuelles beaucoup plus safe et sécuritaires que, par exemple, les personnes monogames infidèles.
Et oui. Oui, je pense que ça va exactement dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se lance dans la non-exclusivité, si on souhaite en tout cas que ça se passe à peu près sereinement et tranquillement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on souhaite évoluer dans un cadre éthique où on prend en considération vraiment toutes les personnes impliquées, la santé sexuelle, ça fait tout à fait partie des choses à penser, à parler, à communiquer, à prendre en charge. Donc oui, je crois qu'il y a, en tout cas dans ce que j'observe, c'est qu'il y a une grande attention quand même des personnes qui naviguent dans la non-exclusivité pour cette question de santé sexuelle. Mais ça reste très important quand même d'en parler, même si moi, comme je disais, j'observe cette attention-là, ça n'empêche que on continue parfois de manquer d'informations, d'éducation, même en étant adulte. Pour moi, ça reste un sujet très important à aborder, à ne pas oublier et de continuer de s'informer continuellement. Et pour cela, moi, je sais que sur mon compte, il y a une story à la une, puis j'avais fait un post à ce sujet-là où on peut retrouver les recommandations classiques, c'est-à-dire que quand, de manière très simple, sans aller dans le détail, les détails, vous pouvez le retrouver et sur mon compte et sur plein d'autres comptes sexo. La recommandation, quand on a plusieurs partenaires, c'est de se faire un dépistage tous les 3 mois quand on a des pratiques du coup non protégées, que ce soit pour la pénétration ou les pratiques orales. Voilà, donc le dépistage, comme je dis, c'est si on a des pratiques non protégées, bah, sinon évidemment la première chose c'est
de se protéger,
d'informer ses partenaires si on a eu une pratique non protégée qui pourrait les mettre en danger, bah, c'est de les informer, d'aller se faire dépister, enfin voilà, on revient à ces questions de prise en charge en fait, de sa responsabilité.
Oui. De prise en charge et de communication, de pouvoir aussi dire bah là j'ai merdé, parce que des fois certaines personnes vont se dire bah oui j'ai une pratique sexuelle non protégée, j'ai merdé, j'ose pas l'avouer, et va mettre du coup en danger l'autre personne, parce que bah, du coup il y a eu des risques et il n'y a pas eu de test fait ou une protection ensuite appliquée. Donc une prise en charge qui est nécessaire, une communication, une responsabilisation aussi de
oui,
chacun.
Exactement. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas simple, hein, parce que là je donne 2-3 petites billes de recommandations, mais il y a plein de situations qui amènent à est-ce que je me suis mis en danger, est-ce que je me suis pas mis en danger. Ok, il y a un ou une nouvelle partenaire qui rentre dans le polycule, donc le polycule c'est l'environnement amoureux de tous les partenaires, on va dire, qui naviguent dans le même cercle.
Donc c'est un groupe de personnes qui a une sexualité ensemble, ou en tout cas pas forcément tous ensemble en même temps, mais qu'en tout cas la personne A peut avoir des relations avec la personne C, mais la personne C a aussi des relations avec la personne B, etc.
Dans l'exemple que tu donnes, bah voilà, du personne A qui sera en relation avec une personne B, etc. J'en parle exactement dans un de mes posts de cette manière-là. Et on voit bien, oui, que ça peut amener une forme de complexité, puisque je dois prendre en considération ma sexualité, mais aussi la sexualité des partenaires, de mes partenaires, etc. Donc ça peut paraître parfois, waouh, un peu vertigineux. Et pour autant, c'est absolument nécessaire si on veut prendre soin et de sa santé et de celle des autres. Et on voit bien que la non-exclusivité, c'est vrai qu'elle permet un coup de projecteur là-dessus, des questions parfois qu'on ne se posait plus quand on était dans un cadre exclusif, qu'on estimait safe, parce que voilà, on est à peu près sûr que notre partenaire ne va pas voir ailleurs, qu'il ne nous met pas en danger, etc. Donc oui, la non-exclusivité, je crois que ça met vraiment un coup de projecteur là-dessus, même si ça amène forcément de la complexité.
Et en même temps, comme tu disais, la non-exclusivité éthique, hein, qui englobe le consentement, la prise en charge, la compréhension de ce qui se passe entre les individus, la communication, la vulnérabilité, tout ça, en fait, sont des éléments tellement importants dans n'importe quelle relation, mais la non-exclusivité vient mettre ça en valeur, et les gens peuvent se dire ah ouais mais là c'est trop compliqué, etc., là là là, et en même temps ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion et de se dire comment je peux l'amener peu importe ma forme de relation. Mais en fait c'est la base, le care dans la sexualité, c'est la base. C'est important de pouvoir savoir quel est le consentement dans la relation, le cadre, prendre en charge, être responsable des ratages, et ça peut arriver, mais du coup être responsable vis-à-vis de ça, pouvoir rebondir, savoir à qui demander. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui finalement sont importantes dans n'importe quelle forme de relation.
Oui, exactement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que je dis souvent aussi aux personnes que j'accompagne ou parfois même sur mon compte, c'est que finalement, moi, tout ce que je propose en termes de réflexion, que ce soit sur les aspects psycho-émotionnels, communication, etc., de la non-exclusivité, bah, finalement, pour moi, c'est les mêmes choses que je préconise en tant que thérapeute, en tout cas, quel que soit le schéma relationnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités, évidemment, à la non-exclusivité, par rapport, comme on le disait, à cette complexité quand même qu'amène une dynamique relationnelle à plusieurs, que ce soit sur la santé sexuelle, mais sur tous les autres aspects aussi de la vie relationnelle. Ça amène une forme de complexité, mais qui peut être très intéressante aussi. Mais en dehors de ça, en effet, les questions de consentement, de respect des besoins, de mes besoins et des besoins de mes partenaires, respect de mes limites et de leurs limites, tout ce cadre finalement et cette philosophie d'éthique relationnelle, pour moi, elle est la même. Elle devrait être la même, en tout cas. J'aime pas être dans l'injonction, mais clairement, pour des relations épanouissantes et respectueuses, je crois que quand même je peux dire ça.
Je peux le dire. Je te donne ma permission.
Voilà, je crois que ça devrait être un petit peu la base, comme tu disais aussi tout à l'heure, concernant la sexualité, il y a des bases sur lesquelles s'appuyer et tout ce que j'ai dit là, finalement, ça s'applique pour n'importe quel schéma relationnel.
Et là, on parlait un petit peu dans tout ce que tu as nommé, c'est presque des prérequis avant de se lancer dans la non-exclusivité, ou en tout cas, des fois, on l'apprend en se lançant dans la non-exclusivité, mais est-ce qu'il y aurait des contre-indications pour certaines personnes, pour certains couples, de surtout pas se lancer dans la non-exclusivité?
Alors, j'aurais du mal à dire qu'il y a des contre-indications claires et nettes, parce que je crois clairement que l'être humain-humaine est capable d'une plasticité, d'évolution, que ce soit dans sa réflexion, dans son travail intérieur. Donc, je crois que tout est possible, en partie. C'est un peu contradictoire ce que je dis, c'est que à la fois tout est possible et puis on se rend bien compte quand même qu'il y a des résistances parfois sur le plan psychologique, sur le plan aussi social parfois, qui font que la non-exclusivité, c'est pas pour nous, ou ça nous met trop en difficulté, ça nous insécurise trop, et dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux rester dans un cadre exclusif si c'est ça qui nous convient mieux. Donc je réponds pas très précisément à ta question parce que je crois que c'est très individuel et ça dépend des histoires personnelles de chacun, chacune. Peut-être que je peux réfléchir à j'ai une situation en tête d'un couple que j'ai accompagné, et une des personnes, clairement, intellectuellement et philosophiquement, la non-exclusivité, ça lui parlait. Mais la manière dont elle vivait ça dans son corps, émotionnellement, c'était juste impossible. Elle s'était mise au boulot à fond sur elle, elle avait bien compris les tenants aboutissants de pourquoi telle résistance, pourquoi tel frein, etc., pourquoi telle peur.
Elle avait toute la théorie.
Il y avait toute la théorie, il y avait même tout le travail sur soi, et pour autant, ça la mettait en grande difficulté et ça la mettait même en danger sur un plan psychologique. C'est-à-dire que lorsque il y a eu une exploration à un moment donné tentée dans la non-exclusivité avec son partenaire, ça a amené beaucoup de, comme je disais, d'insécurité et qui se vivait dans le corps, c'est-à-dire de l'anxiété, des crises d'angoisse, des insomnies, un état dépressif.
Donc ce sont des signaux d'alarme pour toi.
Ils sont des signaux d'alarme. Là, clairement, il n'y a aucun intérêt à poursuivre dans cette voie-là. Enfin, moi, mon souhait, c'est quand même d'accompagner les personnes vers de l'épanouissement individuel et relationnel. Et quand la personne décrit tous ces états psycho-émotionnels, corporels, non. Là, en effet, on peut se dire qu'il y a une contre-indication, une forme de contre-indication, en tout cas, à naviguer dans la non-exclusivité, en ce moment, en tout cas, et avec cette personne.
Exactement, en ce moment et avec cette personne, parce que j'imagine aussi peut-être elle se lançait là-dedans parce que peut-être la partenaire en face avait aussi envie de ça et du coup il y a eu tentative, elle se rend compte finalement ça sera pas pour moi. Si l'autre veut continuer à naviguer là-dedans, comment on fait ?
Exactement. Dans ces cas-là, parfois on se rend compte que la seule voie c'est celle de la séparation entre guillemets, ou en tout cas de prendre des chemins amoureux différents. Ça peut paraître très triste, mais la réalité, elle est celle-ci. Et on a beaucoup de mal à l'envisager, souvent, alors que dans d'autres domaines de notre vie, c'est plus facile. C'est-à-dire que demain, je suis avec un amoureux, on vit sous le même toit, j'ai un travail qui me passionne et on me propose un poste à l'autre bout de la France. Mmh. J'ai vraiment envie d'accepter ce poste-là. J'en parle à mon entourage et moi, mon compagnon ne veut pas, n'a pas envie de bouger. Il me soutient dans mon projet, mais ça le fait pas. On n'envisage pas de relation à distance. On se sépare et on va vivre chacun de nos côtés. Chacun, chacune de notre côté. Ça, on voit bien ces situations qui existent, qui sont tristes aussi, qui sont dures, des décisions dures à prendre. Mais socialement, on voit bien à quel point c'est beaucoup plus facile, par exemple, de l'assumer et de se dire c'est légitime en fait parce que c'est le travail, etc. Quand c'est dans la non-exclusivité, beaucoup plus compliqué. Et je vois bien à quel point les gens sont en difficulté pour affirmer que ça puisse être une raison valable entre guillemets de séparation. On s'accroche parfois souvent à une relation et à juste titre parce qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'attachement, etc. Mais pour moi, ça doit faire partir des remises en question possibles parce que quand on reste dans un schéma relationnel qui ne nous convient pas, c'est dur d'être épanoui et d'apporter de l'épanouissement à la personne avec laquelle on relationne. Mmh. Donc, juste de s'offrir la possibilité de se dire « Ouais, c'est possible peut-être qu'on prenne des chemins différents », je crois que c'est important de le garder en tête, quoi, comme une option possible.
Merci. Et je te rejoins par rapport aux contre-indications, je voulais rebondir là-dessus, mais peut-être effectivement dans les schémas où il y a de la violence, ça c'est quand même, violence ou un cadre pas du tout rassurant. Évidemment, on ne va peut-être pas aller dans la non-exclusivité, ça c'était le premier point auquel je pensais, avec tout ce que tu as dit évidemment.
Oui, merci Camille de préciser ça. Évidemment que quand on est dans une relation, il y a de la manipulation, de la violence, de l'agressivité, quelle qu'elle soit, psychologique, verbale, physique, etc. Évidemment que la non-exclusivité, ça peut être encore un amplificateur en fait de toutes ces problématiques-là. Et dans ces cas-là, moi, ce que je conseille évidemment, c'est de se faire accompagner pour pouvoir questionner la viabilité de cette relation-là et est-ce qu'on est bien dans cette relation-là avant même d'envisager des questions de non-exclusivité. Pour moi, c'est évidemment la priorité. Et en dehors de ces situations, on va dire peut-être extrêmes, il y a aussi des situations où ça ne va pas bien dans la relation, on ne s'entend plus très bien, où il y a des désaccords depuis longtemps, il y a des conflits qui traînent, il y a de la rancœur, etc. Et donc là, pour moi, la priorité, c'est d'abord d'aller regarder ce passif-là, d'aller apaiser possiblement certaines blessures, de travailler sa communication, encore une fois, etc., pour ensuite envisager la non-exclusivité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la non-exclusivité, par rapport au bagage culturel dans lequel on a baigné, ça ne va pas de soi, en fait. Et donc, ça demande déjà pas mal de boulot. Donc, quand on part d'une situation qui est compliquée, ce boulot-là, il va être encore plus difficile et challengeant.
Super. J'ai deux petites questions. La question de femme, et il y a une autre question qui me venait, qui est peut-être un petit peu controversée. Alors, je sais qu'il faudrait qu'on s'épanche un peu là-dessus, mais on va essayer d'être concise. C'est un peu controversé ce que je vais te dire. Est-ce que la non-exclusivité, c'est un truc de privilégié? C'est-à-dire que prendre soin de ses relations, prendre le temps, avoir le temps de relationner, ça demande du temps. Donc le temps, c'est quand même aussi un privilège. Prendre soin de sa santé sexuelle, c'est aussi un privilège. Et travailler sur soi par rapport à ça, c'est aussi un privilège. D'où ma question, est-ce que la non-exclusivité est réservée aux privilégiés?
Ouais, merci pour ta question très intéressante. Parfois, oui, je pense qu'on peut considérer que la non-exclusivité semble en tout cas réservée à des personnes privilégiées, comme tu le dis, qui peuvent prendre ce temps-là de l'exploration intérieure, en étant accompagnées parfois, les questions de santé sexuelle. On voit bien que c'est tout ça est très lié à l'éducation, comment on a accès à cette éducation, à ces ressources-là. Donc oui, moi en tout cas, je souhaite lutter contre ça, clairement. Donc l'idée, c'est aussi, notamment par Instagram, d'apporter du contenu gratuit. Je fais aussi des ateliers, généralement à des prix, en tout cas, qui me semblent abordables, pour que maximum de gens puissent avoir accès aussi, même si c'est sur des temps plus courts et qu'on n'est pas dans le cadre d'une thérapie, mais sur des temps dédiés à pouvoir se questionner, avoir des outils pour mieux identifier leurs besoins, etc. Donc, je crois qu'il y a quand même des possibilités aujourd'hui qui peuvent être offertes, et notamment aussi par des associations qui offrent, par exemple, des cercles de parole. Il y a Gwen Ekal, notamment, qui travaille vraiment dans cette dynamique-là.
C'est grâce à elle que ça m'a amené toutes ces réflexions-là. Voilà. Évidemment, il faut la citer. Voilà. Oui, donc ça, c'est super important.
Donc, il y a des espaces gratuits où on peut aller s'informer, échanger, faire ce travail sur soi, etc.
Qui demande du temps. Donc, les personnes qui ont...
Qui demande du temps, clairement. Donc, c'est clair que quand on a une vie, quand on vit sous une certaine forme de précarité, avec de la pression financière, des difficultés diverses et variées matérielles, évidemment que ce temps-là, on a du mal à le consacrer à la vie relationnelle. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pour ça que ce serait aussi important que très massivement, on puisse être éduqué différemment à la vie relationnelle pour qu'en fait, on ait cette gymnastique-là, en fait, déjà à l'intérieur de nous, qu'on soit déjà un peu entraîné, on va dire, qu'on ait appris plus facilement à naviguer avec les autres et qu'on n'ait plus besoin à l'âge adulte d'y consacrer du temps, des thérapies, etc. Mais c'est clair que en dehors d'une utopie comme celle-ci, Ouais, je crois que c'est important en tout cas d'essayer d'offrir de différents espaces aux personnes pour qu'elles puissent accéder à ça, parce que oui, on peut considérer qu'il y a une forme de privilège là-dedans.
Merci. Marion, s'il y a une chose que tu aimerais que les personnes retiennent sur la non-exclusivité sexuelle et ou sentimentale, quelle serait cette chose-là, la première qui te vient en tête ?
Je l'ai un peu dit tout à l'heure en début de podcast, c'est de la légitimité, c'est-à-dire si vous sentez que vous ressentez de l'amour pour plusieurs personnes en même temps, que vous avez envie d'explorer votre vie sexuelle et sentimentale différemment que cette norme monogame exclusive, ben, je vous invite à aller chercher cette légitimité. Si c'est difficile de la trouver, ben, ça peut être intéressant de se rapprocher d'autres personnes qui naviguent dans la non-exclusivité, donc des cafés polis, des cercles de parole autour de la non-exclusivité, d'aller regarder tout ce qui se passe sur Instagram, par exemple, ou sur d'autres réseaux, pour pouvoir ben, essayer d'accéder à cette légitimité qui ensuite vous sera d'une grande aide pour faire des choix qui vous conviennent vraiment. Moi, en tout cas, je vous vois, je vous entends et vous êtes légitime à mes yeux, mais il faut déjà que ce soit... que vous puissiez vous l'accorder à vous-même.
Merci beaucoup, je suis sûre que ça fera du bien d'entendre ça et les personnes savent vous trouver des ressources, notamment via ton compte Instagram et plein d'autres ressources que tu as citées. Marion, merci beaucoup pour tous tes partages.
Merci beaucoup Camille, c'était un plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parle Sexe en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode. Et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.